Le Grand Débat avec Francis Laloupo.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Le Grand Débat. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h20, heure de Paris. Un numéro de téléphone pour nous joindre si vous le souhaitez, c'est le 01 55 07 58 00 depuis la France ou le 00 33 1 55 07 58 00 depuis d'autres pays dans le monde. Et vous pouvez bien sûr intervenir en direct sur notre page Facebook. C'est facebook.com/legranddebat.
Africa numéro 1, Le Grand Débat, Francis Laloupo.
Dans Le Grand Débat aujourd'hui, la Guinée équatoriale ou la force tranquille de la dictature, un système politique sans opposition interne, des élections sur mesure excluant toute possibilité d'alternance, des opposants voués à l'exil ou enfermés dans les geôles du pouvoir dans des conditions de détention constamment dénoncées par les organisations de défense des droits humains. À cela s'ajoute un népotisme assumé au sommet de l'État et dans les administrations publiques. Doyen mondial des chefs d'État en termes de longévité au pouvoir, le président Teodoro Obiang-Nguema, au pouvoir depuis 39 ans, a instauré au fil des années un système parmi les plus réfractaires au processus de démocratisation. Une autocratie aux allures surannées, exceptionnellement hermétique à toutes les critiques. Comment donc expliquer cette exception équato-guinéenne? Quel en est l'impact sur les citoyens et quel peut être l'avenir de ce régime dans un continent où l'aspiration des populations aux libertés démocratiques n'a jamais été aussi forte? Décryptage avec nos invités dans cette édition du Grand Débat. L'émission est réalisée par Hélène Bizio.
Africa numéro 1, Le Grand Débat.
Vous trouvez également Le Grand Débat sur facebook.com/legranddebat. Nos amicales salutations à tous ceux qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Mention spéciale aujourd'hui à ceux qui nous écoutent à Malabo, à Dakar, à Gao, à Cotonou, à Washington DC, à Montréal, ou encore à Yaoundé, ou encore à Douala. Et toujours et encore une pensée forte à nos amis du Burundi.
Le Grand Débat. Analyse. Décryptage. Coup de gueule. Commentaire. Le Grand Débat sur Africa numéro 1.
Anatomie d'une discrète dictature au cœur de l'Afrique centrale. Voyage au centre du système Obiang du nom du président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema, doyen mondial des chefs d'État avec un record de près de 40 ans aux commandes de l'État. Nos invités pour en parler, Raimundo Ela Nzang, bonsoir.
Bonsoir.
Raimundo Ela Nzang, vous êtes secrétaire général de la CORED, c'est la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, mouvement équato-guinéen, il faut le dire, d'opposition bien sûr, en exil. Bon.
En exil, voilà. Donc, je vais apporter une petite nuance. Mm-hmm. Je suis déjà président fondateur de la CORED.
Oui.
Parce que la CORED est scindée en deux parties maintenant.
Ah, je
une
sais,
partie
oui, oui.
qui est le parti CORED.
Oui.
Et l'autre qui est l'association CORED.
Oui.
Pour la poursuite des biens mal acquis, le crime économique légalisé en France.
Et vous, c'est l'association?
Moi, c'est les deux.
Ah, vous êtes les deux.
Voilà.
Vous êtes président, mais désormais.
Président, voilà.
Vous n'êtes plus secrétaire général, alors.
Voilà, je suis président de la CORED.
Ah, bah, écoutez, enchanté. Mais Raimundo Ela Nzang, merci d'être avec nous. Avec nous également, José Ménébert, bonsoir.
Bonsoir Francis.
José Ménébert, vous êtes consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Et nous serons dans quelques instants en compagnie du docteur Oumar Ba, enseignant au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, le CEDS. Il est chercheur expert associé au laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, le LAM de Sciences Po Bordeaux. Et je dois préciser d'emblée que nous avons invité un proche du régime équato-guinéen et qui s'est décommandé une heure avant le début de cette émission. Nous le regrettons bien entendu. Alors commençons par ce dialogue national initié par le pouvoir équato-guinéen le 16 juillet dernier. Un dialogue engagé sans la présence de l'opposition en exil. Alors au menu de ce dialogue, entre autres, la législation officielle, la légalisation pardon, officielle de certains partis d'opposition. Alors je commence avec vous, Raimundo Ela Nzang. Est-ce qu'il faut comprendre en fait que c'est le pouvoir équato-guinéen qui décide lui-même de qui est opposant ou pas?
Oui, bien évidemment, le dialogue national, c'est pour bien une façon d'amortir les critiques au niveau international, lancer un signe d'ouverture démocratique, même si derrière, il y a une stratégie montée simplement pour laver son image.
Oui.
Parlant de ce même dialogue national, il s'avérait qu'à cette époque-là, j'avais organisé une conférence de presse. J'ai fait une déclaration que je pouvais participer à ce dialogue national par vidéoconférence, comme c'était le cas de Fils Obiang qui n'a pas voulu venir déclarer en France.
Oui.
Et le régime a dit que oui, il était prenant pour voir comment cette initiative pouvait avoir lieu. Mmh. L'ambassadeur de la Guinée équatoriale m'a contacté pour prendre rendez-vous avec moi. Je lui ai dit de me faire une demande officielle d'audience,
oui.
Voilà, de rencontre. Mais je suis allé aux rencontres à Paris, il n'est pas venu. J'étais là avec mon avocat, il n'est pas venu.
Oui.
Donc, nous nous sommes rendus compte que le dialogue, c'était pas un dialogue vrai, c'était une autre mascarade, quoi.
Non, mais alors, donc, ce dialogue a été engagé sans la présence de l'opposition en exil.
Ouais.
Cette opposition qui n'a pas voulu participer au dialogue, elle n'était pas interdite d'accès à ce dialogue.
Non, parce que nous avons déjà l'exemple de quelqu'un qui était rentré au pays. Dans le précédent dialogue, il a créé le parti qui s'appelle Ciudadanos pour l'innovation. Il voulait aller aux élections. Ses militants ont fini en prison. Parmi ces militants qui ont été libérés, hier, d'accord. Donc, je crois qu'on va en parler.
On va en parler tout à l'heure de la libération de certains prisonniers.
Donc, nous avons l'expérience que le dialogue, c'est seulement pour attirer des opposants qui veulent venir aller faire. La farce du régime, mais les vrais opposants, dès qu'ils rentrent au pays, ce sera vraiment une façon de vous neutraliser, quoi.
Alors, il existe bien quand même quelques 17 partis légalisés dans le pays. Hein, quand on se pense sur la situation. À quoi sert cette opposition dans un pays où il n'existe pas vraiment de compétition avec le pouvoir?
Mais c'est des partis unipersonnels.
C'est-à-dire?
C'est des partis qui n'ont pas des militants. C'est des partis où ils ont créé des partis.
Ce sont des papiers.
Des partis en papier unipersonnels, n'ont pas des militants, même pas des sièges. Donc, c'est des partis qui étaient créés au moment de processus de démocratisation en Afrique, aux accords de Bonn. Certains partis, des vrais partis, ont été créés, vraiment, qui faisaient l'opposition comme à ce moment-là, comme la CPL, UP, même le PPD, Severo Moto, c'était des vrais partis en ce moment-là. Mais, bien créé des faux partis pour dire qu'il était en coalition avec 17 partis. C'est des partis unipersonnels, donc c'est des partis qui n'ont pas de poids. Mais aujourd'hui, le régime a réussi à neutraliser toute opposition.
D'accord. Donc on peut bien dire que voilà, c'est un régime, c'est un pays où il n'y a pas d'opposition politique en interne.
Il n'y a pas d'opposition en interne capable de jouer le rôle de faire un changement, quoi.
Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas d'opposant parce que...
C'est un pays où tout le peuple est contre le régime, mais organiser une vraie opposition interne, le régime ne donne pas aux Équato-Guinéens cette chance-là.
On ne peut pas dire que tout le peuple est contre le régime, parce que même les pires dictatures comptent au moins quelques adeptes quand même dans un pays. Il y a toujours ceux à qui profite le système.
Et bien sûr, bien évidemment, c'est des gens qui ont donné le coup d'État avec Obiang. Vous savez, en Guinée équatoriale comme en Afrique, le pouvoir est clanique. Le pouvoir est clanique.
Peut-être là un peu plus qu'ailleurs d'ailleurs, on verra tout à l'heure, puisque c'est pratiquement un pouvoir familial désormais. Alors, José Ménébert, vous avez été en poste en Guinée équatoriale pendant quelques années, vous étiez ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Alors, 39 ans après l'arrivée au sommet de l'État du président Obiang Nguema, comment vous expliquez que ce régime demeure insensible, hermétique même au vent de changement qui souffle dans la plupart des pays africains depuis les années 90?
Insensible ou intouché par...
Peut-être réfractaire, tout simplement. Vous avez le choix des mots.
Oui, bon. Insensible, ça voudrait dire que volontairement, les dirigeants ne sont pas sensibles à la douleur du peuple ou à ce qui se passe à l'échelle mondiale. Réfractaire, idem. Et c'est pour cela que je demandais, est-ce que c'était intouchable? Ça voudrait dans ce cas dire qu'ils auraient mis en place un système qui, lui, n'est pas concerné par tout ce qui se passe dans le monde. J'ai déjà, ici, sur ce plateau, lu le livre, un extrait du livre du président Obiang, Ma vie pour mon peuple, c'est ça? Dans lequel... l'ex-ambassadeur américain aux États-Unis, américain en Guinée équatoriale, et qui avait amené des sociétés pétrolières telles que CMS Nomeco, Chester Norris donc, et qui disait dans le livre du président que « Monsieur le Président, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne touchez pas aux compagnies américaines et tout ira bien pour vous. » Cette phrase, où c'est marqué, noir sur blanc, j'aurais pu le ramener ce soir, explique la complexité des enjeux auxquels sont soumis les pays africains que nous pensons modernes, même s'ils viennent de fêter le 12 octobre 50 ans d'indépendance. L'Afrique est aujourd'hui, pour moi, le terrain mais massif de 30 millions de kilomètres carrés ce qu'on appelle le triangle de Karpman. Dans le triangle de Karpman,
qu'est-ce que c'est exactement ?
Il y a un persécuteur, un sauveur ou sauveteur et la victime.
Mmh. Alors, commençons par le persécuteur alors.
Alors,
dans le cas de la Guinée équatoriale.
Dans le cas de la Guinée équatoriale, vous voyez ces pays, c'est des territoires artificiels qui ont été créés à la conférence de Berlin et dans lesquels il y a des gouverneurs qui se comportent, hein, des chefs d'État, on les appelle comme ça, des présidents, mais qui se comportent du fait des intérêts sur leur territoire comme des gouverneurs. Mais le peuple pense que ces gouverneurs sont là pour servir leurs intérêts. Or, ces gouverneurs sont là entre deux intérêts, celui du peuple et celui de celui qui est ailleurs. Donc, le persécuteur...
Celui qui est ailleurs, dans le cas de la Guinée équatoriale, par exemple, vous pensez à qui ? À l'ancienne puissance coloniale ?
Je pense que...
Non.
Pas forcément, non. Mais surtout les Américains.
Oui.
Quand vous êtes en Guinée équatoriale, vous remarquerez qu'à l'aéroport, on ne contrôle pas les Américains. Ils descendent à l'aéroport, ils prennent leur car et ils vont au kilomètre 5, hein, à la planta, comme
mais
on dit.
Mais ça n'a pas toujours été comme donc, ça. Ça fait 40 ans que Obiang est au pouvoir. Ce que vous dites là est relativement récent. C'est depuis que le pétrole a jailli du sol équato-guinéen, quand même.
Quand ils n'avaient pas le pétrole, dont l'exploitation a commencé en 91,
c'est récent,
les premiers,
relativement récent.
Oui. En 1991, il y avait les Chinois qui les défendaient.
Mmh. Donc, plutôt les Marocains.
Les Marocains faisaient la défense, mais en termes de géostratégie mondiale, la Chine était quand même plus ou moins rangée du côté de la Guinée équatoriale, bien qu'il n'y avait rien. Mais même quand il n'y a rien, vous savez que les Chinois trouvent toujours quelque chose, ça peut être du bois.
Oui.
Donc, ce sont des pays qui vivent dans une complexité. Lorsqu'Obiang organise de telles rencontres entre les opposants et lui-même, et qu'il n'est pas mis à l'écart ou mis au banc des nations dans le monde, la preuve, vous avez vu là, les commémorations.
Ah oui, il y a eu beaucoup de chefs d'État qui étaient présents.
Il y a eu beaucoup de chefs d'État, y compris
dernier, oui.
Des militaires, 5 armées étrangères qui ont défilé. Il y avait l'ancienne puissance coloniale qui avait son petit contingent.
Cité la puissance coloniale.
L'Espagne, bien sûr. Oui, qui était parmi les 5 corps militaires qui ont défilé. C'est que il y a des intérêts dans ces pays.
Oui.
Et donc, le persécuteur est diffus. Ça peut être l'Espagne, l'Amérique. Mais il y a une tête qui est là, qui est visible, ce qui est le président.
Je
ne défends pas, hein, mais c'est très important.
Je ne dis pas que vous défendez.
Oui, non.
Ce que j'entends tout simplement, c'est qu'évidemment, votre l'exposé général est tout à fait intéressant.
Oui.
On va revenir, on va faire le focus sur la Guinée équatoriale.
Oui.
Parce que quand vous faites intervenir divers acteurs, notamment les Américains, on parlait des Chinois plus tôt, on a parlé des militaires marocains, on a parlé de l'Espagne, etc. Est-ce que vous pensez... Voilà, il y a quand même des pays qui sont aussi, qui ont eu la même histoire, qui sont des pays, évidemment, qui ont les mêmes partenaires que ceux que vous venez de citer, dont les régimes ont les mêmes partenaires que ceux que vous venez de citer, mais qui ne sont pas des régimes persécuteurs ni dictatoriaux.
Regardez, on peut les citer. Lorsqu'on regarde le classement de la bonne gouvernance, celui d'Ibrahimo, vous trouvez en tête qui ? Île Maurice, Cap Vert, Botswana. Ce ne pas des pays qui vivent de la rente du sous-sol, ni de leur matière première, ni de matière stratégique. Mais lorsque vous regardez le Gabon, la Guinée équatoriale, la RDC, qui est un pays continent...
Est-ce que c'est cela qui explique la nature même du régime ? Un régime qui est, à ce point, réfractaire à toute forme de démocratisation de l'espace public et politique ?
Lorsqu'on peut faire les affaires dans un pays... en ayant un seul interlocuteur qui vous permet de vous installer, de signer des contrats ou de poursuivre les business, c'est quand même bien plus facile.
Alors vous parlez de ceux qui viennent de l'extérieur, qui ont tout à fait intérêt, effectivement, à tirer leur
épingle du jeu. Il y a des forces exogènes, c'est
d'accord.
Pourquoi je disais...
Quel est le rapport qu'entretient le dirigeant équato-guinéen ou le régime équato-guinéen avec sa population ? C'est cela qui est intéressant au bout du compte.
Cela lui donne... Cet appui international lui donne en quelque sorte une certaine légitimité. Et si vous lisez le prince
l'appui de Machiavel... L'appui international légitime même la nature du régime.
Certaine légitimité, mais je vous ai dit...
Ce ne sont pas les intérêts extérieurs qui fabriquent la nature d'un régime. Le régime, il est ce qu'il est. Il peut être conforté ou non par les intérêts extérieurs.
Mais l'être humain est ce qu'il est.
Oui.
L'être humain va toujours vers la facilité et vers là où il peut tirer un profit maximal.
Voilà, le maximum de profit.
Raimundo Elanzang.
Oui, oui. Qui est d'ailleurs de formation pétrolière, il sait de quoi je parle.
Mais
je ne défends pas le régime.
Votre réponse à l'exposé de José Menebert. Ne vous excusez pas de défendre ou pas
le
régime.
Pas du tout. Mais non, je veux que les Africains.
Votre regard d'observateur. Surtout, vous avez eu une connaissance sensible du terrain.
Et je veux que les Africains comprennent que la politique est comme une pièce de théâtre. Et tant qu'on n'ira pas dans les fondements, dans les racines, on va faire des oppositions qui n'ont pas de sens. Et Einstein disait que la folie, c'est faire plusieurs fois la même chose et espérer avoir ou atteindre un résultat différent. Je vous redonne la parole.
Il y a certaines pièces de théâtre plus tragiques que d'autres. Hein.
Bien sûr.
Oui. Raimundo Elanzang.
Non, mon collègue n'a pas tort. Moi, j'ai fait des analyses dans ce sens-là à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle les sources de pouvoir. Donc, les sources de pouvoir peuvent être les sources de pouvoir interne et les sources de pouvoir externe. Il parle de sources de pouvoir externe qui sont vraiment consistantes maintenant. C'est-à-dire que tout le peuple équatorien sait que si Obiang n'avait pas découvert le pétrole en Guinée équatoriale, il ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Toute l'opposition l'a répété à maintes reprises parce que le pays était pauvre. Mais pour contrôler un pays pauvre, il faut créer d'autres types de richesses, quoi. Il faut compter avec les intellectuels. C'est pour ça qu'on a parlé de Cap Vert qui n'ont pas de matières stratégiques. Ils travaillent leur intelligence, ils essayent de développer d'autres secteurs, ils ne sont pas développés.
Mais est-ce que vous ne risquez pas de déplacer, je dirais, le problème de vous tromper d'adversaire, vous qui êtes un opposant politique, quand pendant des années vous désignez, le président Obiang comme un adversaire politique, et là on a l'impression que vous déplacez ça vers le pétrole. Le pétrole devient finalement l'ennemi. C'est le pétrole l'ennemi du peuple ou c'est le dirigeant ?
Non, c'est pas le pétrole l'ennemi du peuple. On aimerait souligner un aspect. Oui. C'est le pétrole qui l'a fait avoir des moyens économiques.
Et le gaz.
Le pétrole et le gaz. C'est avec ces moyens économiques qu'il réussit à mettre en place un régime militaire et répressif qui fait que le partenaire économique préfère ne pas risquer leurs investissements en appuyant sur une opposition qu'il ne connaît pas que de travailler avec celui qui est là malgré tous les manquements de bonne gouvernance, la répression, tout ça là. Donc, mon collègue a raison. Nous, en tant qu'opposition, on doit continuer à travailler pour voir dans quelle mesure nous pouvons créer des conditions pour créer un véritable contrepoids à tout cela.
La force tranquille de la dictature équato-guinéenne, c'est le thème de ce grand débat. Nous reprenons le cours du débat après une courte pause pour la publicité. À tout de suite.
Africa, le grand débat avec Francis Laloupo.
Force tranquille de la dictature en Guinée équatoriale, anatomie dans cette édition du Grand Débat d'une discrète dictature au cœur de l'Afrique centrale. Pour en parler avec nous, Raimundo Elanzang, président de la CORED, c'est la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, mouvement politique de Guinée équatoriale, bien sûr. José Menebert est avec nous, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Nous avons été rejoints par le docteur Oumar Ba. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes enseignant au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris. Vous êtes chercheur expert associé au laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, le LAM de Sciences Po Bordeaux. Alors, le 4 juillet dernier, parlons de l'actualité de la Guinée équatoriale, le président Obiang a décrété une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques, de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Alors, il y a quelques jours, ce sont 81 prisonniers qui ont été graciés par le président, parmi eux une trentaine d'opposants condamnés au début de l'année à plus de 30 ans de prison pour sédition. José Menebert, alors, pendant des années, le pouvoir équato-guinéen a démenti l'existence de prisonniers politiques. Et voilà que par ce geste, finalement, le même régime reconnaît le contraire. Et quel est votre commentaire sur cette actualité ?
Les prisons, elles existent en Guinée équatoriale, elles ne sont pas vides. Et comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a des organisations internationales qui vont inspecter ces prisons, font leurs rapports, leurs comptes rendus. Et nous savons une chose, c'est que effectivement, la Guinée équatoriale n'est pas classée par, que ce soit par Transparency qui s'occupe de transparence, mais...
De corruption,
aussi,
de corruption.
La corruption. Oui. Mais il y a aussi Amnesty International que la Guinée équatoriale n'est pas le pays qui compte dans le avec un bon ranking parmi les mieux classés au monde. Donc, on sait très bien qu'il y a un problème.
C'est même classé l'un des pires dictatures au monde.
Des dictatures au monde, voilà. Comme le dit l'opposant. Mais moi, j'aime aller dans le fond des choses. Le fond, c'est que aujourd'hui, pas qu'en Guinée équatoriale, hein, mais vous regardez
mais
dans d'autres pays.
Restons en Guinée équatoriale.
Oui, on reste en Guinée équatoriale.
Comparaison n'est
si
pas
on,
raison.
Si on remplaçait aujourd'hui Obiang par quelqu'un d'autre.
Oui, par Raimundo.
Raimundo, par exemple.
Qui est là avec nous.
Quelle est la préparation? Parce qu'un changement, c'est une préparation. Quelle est la préparation que M. Raimundo, en tout cas son parti, la coalition des opposants, ont déjà fait sur le plan mental sur les populations? Quel est le programme de changement institutionnel, organisationnel, oui, que vous proposez? Parce que dans un modèle pyramidal, mieux vaut être à la tête, au sommet, qu'en marge. Et c'est ce qui fait qu'en fait, nos sociétés, par manque de modèles capables de nous organiser, les sociétés africaines, comme des humains, eh bien, c'est la loi de la jungle qui prévaut. C'est la loi du plus fort qui prévaut. Et c'est ce qui se passe. Donc, pour que le gars, il se maintienne, le président se maintienne au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque vous commencez à trop être perturbateur, il s'arrange à vous mettre hors d'état, en guillemets, de nuire.
En bastiment, agrémenté de tortures diverses et variées, etc. En tout cas, le président Obiang a réfuté toute forme de torture dans les prisons, même si ça reste évidemment tout à fait discutable. Mais alors, ce que vous dites est tout à fait surprenant, mon cher José Bélébert, parce que vous dites finalement que quel que soit le régime qui se mettrait aux commandes de l'État équato-guinéen, qui a comme ça une sorte de fatalité à la brutalité politique, quoi, à la violence politique.
Non, c'est pas de la fatalité, mais moi, ce qui m'embête dans le débat africain, la politique se résume à dire pousse-toi, c'est mon tour de manger.
Oui.
C'est alors, un pays qui a beaucoup de pétrole, c'est un peu.
Là, vous dites ça pour l'opposant, hein.
Pas directement, mais c'est un phénomène général, mais c'est ça les oppositions.
Oui.
Quelle est l'idéologie? Quel est le leadership, le message de leadership transformationnel qu'ils impulsent dans la société pour que demain soit différent, pour qu'on ait un peuple différent? Parce que après on peut voir les techniques de manipulation des masses, mais j'ai vu ça dans votre programme, on y arrivera à la fin. Comment on fait pour perdurer au pouvoir? Il y a des méthodes. Oui. Mais est-ce que les opposants le comprennent? Est-ce qu'ils contre cela? On a aujourd'hui des moyens. Avant, la télévision, la radio étaient le monopole du pouvoir. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout ça, vous pouvez faire mieux.
Oui.
Mais est-ce que vous le faites?
Je suis en train de...
Raimundo Elan Sang.
Je suis en train là même de mettre en stream ce qu'on est en train de parler pour dire que nous voulons que le débat soit ouvert et que même le régime puisse suivre ce qu'on est en train de dire ici.
Eh bien, ils iront regarder le triangle de Cartman.
Voilà, commençons par parler de fait de prison. C'est ça qui était
c'est
le...
Ça.
Voilà.
Alors, pourquoi cette amnistie maintenant, cette amnistie générale, tout d'un coup?
L'amnistie générale, c'est... vous savez, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui a été classé parmi les pires dictatures au monde au point de vue de la répression. Je vais vous montrer une graphique après.
On n'est pas à la télévision, donc ça va être difficile pour les auditeurs de voir ça, mais c'est pas grave.
Je vais commenter le graphique.
Oui.
Donc aujourd'hui, Obiang, toujours il a eu une stratégie de réprimer et de relâcher pour se paraître une ouverture. D'accord? C'est pas la première fois qu'il le fait.
Oui.
Mais cette fois-ci, il l'a fait au point de vue d'une stratégie de dissuasion et de répression au peuple équato-guinéen et à l'opposition en général.
Oui.
Je vous ai dit ici qu'il y a un opposant qui était en exil en Espagne, qui est rentré au pays pour former un parti politique suite au dialogue national que le régime avait convoqué les opposants pour rentrer. Une fois que l'opposant est rentré, donc le peuple a cru que cette fois-ci, Obiang allait laisser que l'opposition puisse exister et pouvoir s'exprimer librement, quoi. Donc, l'opposant s'est vu en train de faire des meetings avec 10 000 à 15 000 personnes.
Oui.
Donc, le peuple était vraiment derrière lui. Donc, ça a été une occasion pour montrer que même si un opposant arrive de l'exil, il ne peut pas vous rassembler ici et espérer qu'il fasse quelque chose D'accord. contre mon régime. D'accord. Donc, ils ont ramassé les opposants, ils les ont torturés, ils les ont mis en prison, ils ont fait des jugements même de 30 ans de prison. Je crois que tout ça là est sorti ici. Donc, aujourd'hui, ils sont en train de relâcher ces opposants-là. Mais, pour le peuple équato-guinéen, est-ce que si un opposant rentre encore en Guinée équatoriale, oui. le peuple peut s'arranger derrière lui, vu l'expérience qui vient d'avoir lieu avec l'opposant qui est rentré. Je crois que pour Obiang, c'est une façon de mettre en place une stratégie de dissuasion par répression.
C'est de la communication, en fait, politique, au fond.
Voilà.
C'est
ça. Oui. Voilà, une stratégie de dissuasion, de répression pour dire, oui. voilà, c'est lui qui va tenter l'aventure d'aller s'inscrire à un parti d'opposition ou un opposant qui rentre au pays sans avoir un contrepoids, qui que soit, ils vont finir comme ça. Il y a une vidéo qui circule sur Internet où un des jeunes qui était emprisonné dans ces prisonniers qui viennent de sortir, on l'avait relâché avant. Ils racontent l'expérience des tortures qu'ils ont subies. Ils étaient en train de se dégrader vif. C'est-à-dire, on les frappait sans les soigner.
C'est ça.
Vous imaginez ? Et un de ses opposants est mort en prison par torture. Mais Obiang est capable aujourd'hui d'aller à une émission à la télévision espagnole et dire qu'on ne torture pas pratiquement en Guinée équatoriale.
C'est ça.
Tandis qu'il y a des gens qui ont des signes de torture. Il y a un opposant qui est mort avec des photos de torture qui circulent dans les réseaux sociaux. Il est capable de dire qu'on ne torture pas en Guinée équatoriale. Donc,
Docteur Oumaba, alors là on vient de parler de communication politique. Hein. Le régime qui a organisé le 16 juillet dernier un dialogue national. Et puis il y a cette amnistie totale donc accordée à des prisonniers politiques. Alors que jusque-là, le régime disait qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. On parle quand même de communication politique, mais avec la chair et le sang d'êtres humains, quoi. Est-ce que, selon vous, il y a une exception de la Guinée équatoriale, parce qu'on a connu diverses formes de régimes politiques en Afrique. Hein. Aujourd'hui, il y a une grande diversité quand même de régimes politiques. Et est-ce qu'il y a, je dirais, une singularité équato-guinéenne ?
Je ne saurais vous répondre par l'affirmative ou par la négative, d'autant plus que nous ne sommes pas là, de mon point de vue, pour faire le procès en règle du régime équato-guinéen. Nous sommes là en débat sur la question des régimes politiques, y compris le cas monographique de la Guinée équatoriale. Et à ce niveau-là, je me distinguais des deux co-débatteurs sur deux points. Le premier point, c'est celui qui est juste à ma gauche, qu'on vous appelait encore.
José Ménébert.
Voilà, lorsque vous faites allusion au fait que l'Afrique, peut-être en Afrique, on a plus de brutalité, etc., je ne le crois pas. Je crois que fondamentalement, il faut s'inscrire en faux vis-à-vis de cela pour deux raisons. La première est que les trajectoires des États et des sociétés sont atypiques. La deuxième est que nous allons voulu singer l'Occident alors que nous n'avons pas vécu l'historicité de l'État occidental. Et là, je vous renvoie à la théorie des badis des États. Et donc, pour fermer cette parenthèse, la deuxième réserve que j'aimais fondamentalement, c'est par rapport aux supposés vidéos. Je reviens d'une expérience dans un pays d'Afrique centrale où j'ai coordonné l'équipe des experts de l'Union africaine. Et à ce niveau-là, nous avons été victimes aussi de manipulations de la part, parfois, de l'opposition, parfois, de certains pans de la société civile ou d'autres acteurs.
Le Gabon ?
Donc,
du Gabon ?
Non, je ne donne pas de pays, mais je dis que, généralement, par moment, ça peut arriver. Donc, n'ayant pas les preuves tangibles pour dire s'il a torturé ou pas, je vais d'abord m'inscrire sur les grands principes. C'est que la torture est inadmissible dans un état de droit. Deuxièmement, ce qu'il faudrait reconnaître, c'est que l'opposition ne doit pas être là à sauter à invectiver. Elle doit aussi avoir un programme programmatique. Et là, je suis tout à fait d'accord avec monsieur qui dit que si on lui posait la question concernant, par exemple, leur projet de société, il n'en aurait pas. Et laissez-moi terminer. Lorsque je vous ai écouté, je pense que vous n'en avez pas sur le plan économique de façon pertinente pour pouvoir susciter l'adhésion populaire. Lorsque le peuple se réveille, il n'y a aucune machine de répression qui est capable de le mettre à bout et au pas. Ce n'est pas possible. Prenez différents régimes. Moussa Traoré au Mali, il a tiré sur la population, mais il a été vaincu par cette même population. Prenez le régime socialiste au Sénégal, 40 ans presque au pouvoir, il a été mis à bas par la jeunesse sénégalaise lorsqu'il est debout, une et indivisible. Prenez le régime de Wade. Avec tout son aura et le respect qu'on connaît de Maître Wade, il a été battu par la jeunesse sénégalaise alors qu'il avait l'onction légitimatrice de certaines puissances après avoir, fait bande à part contre la Libye avec son discours de Benghazi. On peut multiplier ainsi les chaînons. Prenez par exemple l'Égypte avec Hosni Moubarak, qui était l'un des plus régimes, les plus centralisateurs et les plus militaristes. et pourtant il a été battu par la vindicte populaire. On peut multiplier jusqu'à l'infini. Donc pour vous dire que même César, donc globalement ce qu'il faudrait comprendre c'est que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Et à partir de ce moment il n'y a pas de fatalité. Il faut vous inscrire en faux par rapport à ce paradigme-là. Il faut d'abord s'inscrire, n'est-ce pas, en bonne intelligence, avoir une cohérence, une confiance envers le peuple. Et à ce niveau-là, véritablement, la mayonnaise peut prendre. Mais pour terminer, si vous le permettez, le régime Obiang-Nguema n'est pas aussi, de mon point de vue, zéro pointé. Mmh. Il a aussi fait des réalisations qui font aujourd'hui émule dans la sous-région. En matière de développement.
Lesquelles, par exemple?
Par exemple, ces grandes infrastructures où on a vu, par exemple, des hôpitaux être construits, des routes, etc. Et qui font aujourd'hui que dans des pays voisins, d'à côté qui sont francophones, on a aujourd'hui l'exemple de la Guinée équatoriale qui est cité. Maintenant, il y a aujourd'hui, c'est vrai, une décroissance du régime compte tenu de la contraction des prix des hydrocarbures. On est parti de moins 4,7% en 2013 jusqu'à moins 7,4% en 2017. Ce qui voudrait dire qu'on est à une décroissance plus stagflation. C'est-à-dire lorsque la croissance ne monte pas et que vous avez une inflation à 1,7% au lieu de 1 ou bien 0,7%, il va sans dire que vous ne pouvez pas relancer votre
économie.
Est-ce
qu'on peut faire l'impasse sur les libertés démocratiques quand il y a des infrastructures et la croissance économique?
Non, c'est là où je vous dis que on ne peut pas faire l'impasse sur les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont sacrés, la vie humaine est sacrée. Si vous tuez une seule personne, vous la torturez, c'est inadmissible. Ça, il faut mettre la carte sur table et dire que ce n'est pas normal, c'est inadmissible. Hier seulement, je le disais concernant l'Arabie Saoudite sur BBC Afrique, et je disais que c'est inadmissible. Mais de là à dire que ça a eu lieu ou pas, je n'ai pas les arguments factuels pour pouvoir, scientifiquement parlant, me prononcer en toute objectivité. Et donc, je me réserverai de...
Donc, on écoutera quand même avec beaucoup d'attention les indications de l'opposant Raimundo Elanzang, et avec évidemment toutes les réserves d'usage, bien entendu. Merci, on marque une pause. Retour dans deux minutes pour reprendre le cours de ce débat.
Africa, le grand débat avec Francis Lalupo.
La Guinée équatoriale ou la force tranquille de la démocratie, c'est le thème de ce grand débat avec nos invités Raimundo Elanzang, José Ménébert et Dr Oumar Ba. Vous souhaitiez, Raimundo Elanzang, répondre au Dr Oumar Ba?
Oui, je souhaite le répondre par rapport à...
Réponse synthétique, hein, pour avancer dans le débat.
D'accord. Bon, sur les faits, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé de faits de la répression qu'il a condamnée, bien évidemment, et qu'il peut manquer de preuves pour prouver réellement si la répression a eu lieu. Je vais vous répondre dans ce sens où je suis quand même quelqu'un qui vient de la source du pouvoir en Guinée équatoriale. Mon père était l'un de le père de l'indépendance. Il était le gouverneur civil de l'île de Bioko lorsque Obiang était le gouverneur militaire en ce moment-là. Donc, c'était des personnes qui faisaient la même fonction, mais celui-là dans le rôle civil, l'autre dans le rôle militaire, quoi. Donc je connais très bien le fait de la répression en Guinée équatoriale. Ici, il y a une graphique qui montre, je vais mener cette graphique, c'est une graphique statistique de la Banque mondiale, qui montre la croissance de la population de la Guinée équatoriale. Bon, vous regardez ici.
Montrez-la à votre caméra, puisque vous avez une caméra. Donc
il y a une décroissance, d'accord? Il y a une décroissance du graphique. Ça veut dire un pays qui a eu une croissance négative de 1972 à 1971 jusqu'à 1979, montre que la population a décru. Oui. Non, c'est grave. Voilà.
Et c'est lié, grave. Et c'est lié à
ça
quoi?
Ça veut dire que c'est lié aux massacres, aux assassinats, à l'exil forcé des Équato-Guinéens. Donc, on ne peut pas nier si il y a des statistiques comme la Banque mondiale.
Et mais ce n'était pas encore Obiang. Là. Ça, c'est l'époque de Macias.
Obiang était le chef des armées.
Bien sûr.
Voilà.
Ce n'était pas lui le président.
Il était le chef des armées. Obiang, elle, à la base, je le dis, je l'ai toujours dit, et je le connais parce
que... Au fond, la question que posait essentiellement José Ménébert et peut-être aussi le docteur Oumar Ba, c'est une question essentielle. Pourquoi êtes-vous opposant en réalité? Quel est votre objectif fondamental? Qu'est-ce qui vous a amené? Quel est le ressort de votre opposition?
Le ressort de mon opposition, ça vient de loin. Ça vient dès même le combat de notre père, de mon père et de ses collègues, de voir la Guinée équatoriale un pays libre et démocratique. D'accord. C'est une erreur de dire que nous n'avions pas de système politique, de système d'organisation. C'est faux. D'accord. Il y a des gens qui connaissent l'histoire, même traditionnelle, qui connaissent des modèles qui ont marché et que nous pensons aujourd'hui qu'avec l'instruction que nous avons eue à étudier. Nous pouvons réellement mettre le modèle des sociétés là en place et gérer nos sociétés comme ils étaient gérés avant, mais avec en introduisant une part de modernité dedans. Donc moi, dans mon projet politique, donc vous allez trouver sur internet, j'ai un programme de 10 points, vous allez trouver ce qu'on appelle le vivre ensemble. En Guinée équatoriale comme dans d'autres pays africains, les indépendances n'ont pas créé des États-nations parce qu'il y avait des nations ethniques, d'accord. Mais avant la colonisation, les ethnies là, arrivaient quand même à subsister, à vivre dans un même espace. Donc, en prenant compte de ce modèle, moi je crois que si on arrive à libérer nos pays, on peut encore réfléchir dans quelle manière on peut restructurer nos États pour avoir des systèmes qui sont propres à nous, les Africains.
Donc, alors, je voulais vous soumettre à vos commentaires un instantané quand même de l'actualité de ce pays, parce que nous ne faisons pas le procès, rassurez-vous, docteur Oumar Ba, mais nous parlons d'anatomie plutôt, hein, d'un régime. Hein. Le fils du président Théodorine Obiang, déjà vice-président, hein, a été récemment promu général de division des forces armées terrestres. D'ailleurs, dans la foulée, ce sont plusieurs membres de la famille présidentielle qui ont été promus la semaine dernière à des hautes fonctions militaires sur décret présidentiel. Le beau-frère du président Victoriano Nsue Okomo et son cousin José Enemé Obama, tous deux promus généraux. Alors, c'est vrai qu'on ne fait pas là dans la subtilité, hein. C'est vrai que c'est toutes les sphères de l'administration publique, au sein du gouvernement, le fils du président qui est lui-même vice-président. Est-ce qu'on n'a pas là fait typiquement un régime qu'on dit clanique ou népotiste et qui s'assume pleinement comme tel ?
Oui, vous le dites de la Guinée équatoriale, mais on peut le dire dans une moindre mesure aussi des États-Unis d'Amérique, avec, nous savons, Bush père qui a été succédé par Bush fils, Clinton dont l'épouse veut devenir, a essayé d'être président de la République. Certes, comparaison n'est pas raison.
Là, on parle de nomination quand même.
Laissez-moi terminer.
D'une architecture.
Mais laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je vous donne là des exemples de démocratie mature qui se comportent presque comme à l'image de ce qui se passe aujourd'hui.
Il n'y a pas toute la famille de Clinton au pouvoir dans les administrations.
Sauf que je suis d'accord avec vous, mais n'oublions pas qu'aux États-Unis, un président qui vient avec 10 000 fonctionnaires, n'est-ce pas, de son camp, soit présidentiel, soit démocrate. Donc, en Afrique, certes, on a des proportions qui sont peut-être inquiétantes en Guinée équatoriale parce que nous souhaiterions que ça se passe autrement, de façon plus meilleure, en termes d'orthodoxie, de la bonne gouvernance, des institutions publiques. Mais nous n'allons pas dicter quand même au président de la République de Guinée équatoriale qui a la majorité écrasante de nommer puisque le pouvoir de nomination est discrétionnaire, mon cher ami. C'est la première réserve. La deuxième réserve, c'est par rapport à l'argument qui vient d'agiter tout à l'heure de la Banque mondiale. Je ne connais pas le pourcentage, la marge d'erreur, je ne connais pas l'échantillon et donc je traiterai ça avec beaucoup de réserve, d'autant plus qu'il y avait à ce moment-là, il n'y avait pas encore la découverte de pétrole, la Guinée équatoriale était extrêmement pauvre avec tout ce que l'on sait comme maladie endémique de cette zone où il y avait beaucoup de morts. Donc avant 2000, on n'avait pas de pétrole. Qui soit, n'est-ce pas, une
avant de ressources... Avant 1991, l'exploitation commence en 1991.
Oui, mais avant 2000, je dis qu'il soit pertinente et qu'il soit, par exemple, le premier facteur de développement de ce pays. Maintenant, ce qu'il dit est pertinent de mon point de vue et recevable. Sur un point, c'est le fait de dire que s'il y a eu des dictatures ou bien des massacres publics, personne ne peut les cautionner. Ça, c'est clair. Mais il reste à être prouvé et jusque-là, je n'ai pas encore de preuves. Et l'autre chose, là où je maintiens encore ma position, c'est qu'il ne m'a pas donné, comment dirais-je, un argumentaire économique de développement de son pays qui soit pertinent, qui soit convaincant. Et pour demain, susciter l'adhésion populaire, et je crois qu'il faudrait travailler à ce niveau-là pour les d'invectiver.
Enfin, aujourd'hui, on ne fait pas non plus le procès de l'opposition non plus.
Non, hein, voilà. Non, je sais, mais il est là, c'est plus facile.
Comment dire, ce système clanique qui se met en place, qui se conforte et qui s'assume pleinement au sommet de l'État.
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que effectivement, on ne fait pas le procès d'un chef d'État et encore moins d'un État souverain. Nous faisons l'anatomie.
C'est ça.
Et dans cette anatomie, bien que comparaison ne soit pas raison, les Romains se sont toujours inspirés des modèles qui fonctionnaient. Moi, je connais un modèle où c'est le modèle suisse.
Oui, je vous attendais là.
Vous m'attendiez là. Qui permet...
Vous êtes le grand promoteur de la fédéralitude.
De la fédéralitude, oui.
Voilà.
Parce que ce modèle n'est pas un modèle d'État-nation. Vous ne trouverez pas dans la constitution helvétique, donc suisse, le mot république, la constitution. Vous pouvez la télécharger ce soir. C'est un pays qui permet à plusieurs entités ethno-linguistiques de vivre ensemble sans s'entretuer, et cela depuis plus de 700 siècles, avec la protection des minorités. Si vous allez en Guinée équatoriale, le roi Ouganda, Donc les côtiers, les gens de la, de la province du littoral, hein, sur la partie continentale. Lorsque les Espagnols donnaient les indépendances, ils avaient dit « on vous donne l'indépendance, mais nous gardons l'arrière-pays sous domination ». Le roi Ouganda avait dit « non, independencia para todos ou para nadie ». Donc indépendance pour tous ou pour personne. Et donc, bon an mal an, ils sont arrivés à un stade où les Boubis, hein, l'île de Bioko, qui a 300 km du Rio Muni, mais qui produit plus de 85% du pétrole de Guinée équatoriale, ils sont plutôt côté Cameroun. Donc, ces parties du pays étaient parties pour avoir un État fédéral qui permettrait de préserver la diversité du pays. Et cela n'a pas eu lieu. En termes de nomination, puisque avant
d'un
que
mot,
vous me coupiez.
Non, oui, non, d'un mot. C'est pas moi qui vous coupe, d'ailleurs, c'est le chronomètre. Hein.
Le chronomètre. Oui. Le pays dont je vous parlais, en Suisse, c'est le Parlement qui nomme les généraux. Et pour être général, il y a des conditions requises. Alors, s'il y a des pays où une personne peut nommer les généraux, pourquoi est-ce qu'ils se généraient ? Allez voir dans la Constitution, qu'est-ce qui est marqué ?
On verra tout à l'heure, on posera la question à Raimundo Elanzang, hein, qui connaît bien son pays. On marque une pause pour le Flash Info de 19h qui sera présenté par Salah Eddine Gakou dans quelques instants. Et le grand débat reviendra ensuite et nous serons ensemble jusqu'à 19h20. À tout à l'heure, à tout de suite.
Africa, le grand débat avec Francis Lalupo.
La Guinée équatoriale ou la force tranquille de la dictature, nos invités pour comprendre le système Obiang du nom du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Nos invités donc, Raimundo Elanzang, président de la CORED, c'est la coalition d'opposition pour la restauration d'un État démocratique, un mouvement politique équato-guinéen. José Ménébert est avec nous, consultant international en projet de développement, ancien conseiller à la coopération française en Guinée équatoriale. Et le docteur Oumar Ba, enseignant au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, chercheur expert associé au laboratoire de recherche Les Afriques dans le monde, le LAM, de Sciences Po Bordeaux. Alors, on parlait d'un pays pétrolier, hein, José Benhibert. Oui. Alors, dites-nous très précisément, est-ce que la population équato-guinéenne bénéficie réellement de la redistribution de la manne pétrolière ?
Il y a ce qu'on appelle l'indice de Gini, hein, lorsqu'on regarde la répartition de la richesse dans un pays. Et là encore, je vais vous dire que la Guinée équatoriale, selon ses standards, selon les critères pris en compte dans l'indice de Gini, elle n'est pas bien classée. Mais si on revient aux commémorations du 12 octobre...
Le cinquantenaire de l'indépendance, voilà, la Guinée équatoriale.
Le cinquantenaire de l'indépendance. Moi, j'ai scruté, analysé les vidéos. J'ai écouté, par exemple, Mamadou Issoufou, le président du Niger, qui dit « Ça a été une très belle fête, c'est normal, parce que le président a, depuis plusieurs décennies, beaucoup travaillé pour le pays, pour faire progresser le pays. » Donc, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui en Afrique. Si un chef d'État d'un pays voisin, et il y en avait plusieurs, il y avait au moins une quinzaine qui étaient là, en arrive à avoir cette appréciation, que pensez-vous que le peuple puisse dire?
C'est intéressant,
le peuple comprend peu.
C'est intéressant ce que vous dites. Parce
oublie
que
vite, disait quelqu'un.
On voit bien, docteur Oumar Ba, que le pays n'est pas isolé, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il est même, disons que le régime est même plutôt courtisé, hein, par un certain nombre de chefs d'État africains notamment. Est-ce que en quoi la Guinée équatoriale est un partenaire indispensable pour ces pays africains?
Je pense que c'est un pays qui contribue du point de vue macroéconomique à la pertinence du CFA dans cette zone. Ça c'est un paradigme qu'il ne faut pas oublier. Parce que si vous regardez très bien, entre 2016 et 2017, nous sommes passés de 10 milliards de dollars à 12 milliards de dollars, quelle que soit la contraction maintenant des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui veut dire que quand on interroge les statistiques de la Banque mondiale, on serait malgré tout autour de 33 000 à 38 000 dollars américains par tête. Mais cela concerne l'élite. Parce que si vous regardez un peu, il semblerait que, selon ces mêmes statistiques de la Banque mondiale, entre 70 à 75% de gens qui vivent avec moins de 2 à 3 dollars par jour. Ce qui voudrait dire que nous sommes dans une logique de macrocéphalie urbaine, mais qui est combinée à une sorte de redistribution des richesses qui ne soit pas strictement équitable. Ça, d'accord, c'est un fait. Mais de là à dire que le coefficient de Gini soit pertinent, d'un point de vue, je me garderai de cela.
Il n'est pas pertinent, justement.
Voilà,
c'est ce que j'étais en train de dire.
On ne peut pas l'utiliser pour juger un pays. on doit le juger à travers les critères macroéconomiques les plus pertinents, mais aussi micro. Et à ce niveau-là, il y a le PIB, il y a le revenu national brut par habitant, et à ce niveau-là, la Guinée équatoriale est mieux placée que l'ensemble des pays de cette zone, voire même d'Afrique, parce qu'il serait le pôle, en pôle position dans le top 3 des pays les mieux lotis en termes de revenu national brut.
Nous avions donc raison d'intituler cette émission La force tranquille de la dictature, parce que c'est une dictature assumée. En tout cas, c'est une autocratie, en tout cas, avec des atouts, manifestement, qui font que ce pays est loin d'être isolé. Il est plutôt courtisé même par ses pairs africains.
Et si vous me permettez juste une dernière chose, c'est que les États-Unis d'Amérique aussi sont courtisés par la Guinée équatoriale. Ils courtisent la Guinée équatoriale pour l'avoir sous le chef gardé, avec ExxonMobil et d'autres compagnies pétrolières qui sont là. Et aussi, n'oublions pas que 73 millions de dollars ont été investis par la Guinée équatoriale aux États-Unis. Donc, ce qui voudrait dire que le géant du monde, le géant des droits de l'homme, si lui-même a ses intérêts stratégiques qui sont sauvegardés, il va sans dire qu'il ne serait plus regardé.
Généralement, la question des droits de l'homme s'arrête, sur le seuil, des intérêts des uns et des autres. Cela est bien connu. Les pays sont moins regardants sur les droits de l'homme dès lors qu'il s'agit évidemment de défendre des intérêts économiques. On va écouter Raimundo Elamsang d'abord pour savoir quel est votre regard à vous sur la redistribution de la manne pétrolière. Est-ce que, le quotidien des Équato-Guinéens a fortement changé au cours des 20 dernières années? Et d'abord, rappelez-nous rapidement la population équato-guinéenne. Il y a combien d'âmes en Guinée?
La population de la Guinée équatoriale est moins d'un million d'habitants. Malgré que bien pour gonfler, diminuer le PIB, ils disent que nous sommes à peu près 1 500 000.
Oui, enfin, ça reste quand même une petite population.
C'est une petite population, la population aussi peut se voir avec la croissance. Si vous, est-ce que vous croyez un peu les données de la Banque mondiale? Si les données de la Banque mondiale pour vous sont un peu crédibles, il faut quand même aussi prendre en compte à cette croissance de la population équato-guinéenne. Un pays qui était 350 000 habitants en 1980 ne peut pas être 1 500 000, d'accord? En 2016, en moins de 20 ans, ils ont triplé le nombre d'habitants. C'est impossible. Donc, en commençant par là, le PIB est beaucoup plus élevé de ce qu'on dit là.
Est-ce que la vie au quotidien
La vie n'a pas amélioré. Voilà. Si on regarde la croissance économique de la Guinée équatoriale, elle est là, dans cette graphique de la Banque mondiale. Donc, l'indice de développement humain est presque constant.
C'est d'accord? Là que je voulais en venir.
Voilà, l'IDH. Alors, parlons de choses très concrètes. Maintenant, par exemple, le marché du travail, la santé, l'éducation, et puis l'accès, aux biens infrastructurels ordinaires.
Prenons des choses beaucoup plus concrètes. Voilà. Le peuple de la Guinée équatoriale aujourd'hui est pire que ce qui était avant l'exploitation d'hydrocarbures. Je vous parle en connaissance de cause. Avec la baisse, avec la production des hydrocarbures, d'accord, le président Obiang, son clan et sa famille avaient injecté un certain nombre de revenus dans la société pour avoir la paix sociale avec la construction des infrastructures, avec le travail qui se créait autour de l'industrie pétrolière, parapétrolière, d'accord? Donc, avec la descente des hydrocarbures et le prix, et le pays en récession maintenant, il n'y a plus d'emplois. Le peuple équato-guinéen, le taux de criminalité en Guinée équatoriale a explosé. Donc, tout le monde le sait ici. Quand le taux de criminalité explose, ça veut dire qu'il y a malheur. Le peuple n'arrive plus à souvenir à ses besoins. Ou bien, en 25 ans d'exploitation pétrolière, monsieur, est-ce que vous connaissez combien a construit une seule école publique en Guinée équatoriale? Donnez-moi le nom de cette école publique. Je vous donne le nom. Est-ce qu'il a construit un seul hôpital public en Guinée équatoriale? Donnez-moi le nom de cet hôpital public. Parce que quand on parle des cliniques, ou bien qu'ils ont construit des hôpitaux, c'est un hôpital qui a été construit la passe avec la première dame ou pour rentrer dans cet hôpital seulement pour payer le lit, c'est 300 000 francs CFA. Le fonctionnaire, combien est le salaire minimum? 100 000 francs CFA. Donc, on parle maintenant des choses concrètes. Au côté de l'éducation, aujourd'hui, l'éducation a été privatisée puisqu'il y avait une manne d'argent qui rentrait au pays. Donc, les gens se sont mis à faire d'entrepreneurs dans l'éducation. Aujourd'hui, sans des revenus encore consistants pour les familles, les enfants ne vont plus à l'école aujourd'hui. Les pères n'arrivent plus à payer la formation de leurs petits-enfants. Mmh. Et ils restent à la maison. Mmh. Je parle de choses concrètes. Donc aujourd'hui, dire que la Guinée équatoriale a beaucoup fait parce qu'il a construit... Vous savez, lorsqu'on construit des infrastructures, il y a quelque chose qui est simple. Le taux de résistance d'un bâtiment. Est-ce que vous connaissez quel était le taux de résistance d'un bâtiment en Guinée équatoriale? Est-ce que vous ne connaissez pas que les Chinois qui sont allés construire des bâtiments en Afrique, en Guinée équatoriale, tout ça là, est-ce qu'on a fait le contrôle si ces bâtiments n'étaient pas construits même avec l'amiante? Des choses simples comme ça.
J'étais aux infrastructures, voilà. C'était quand même pas l'amiante. Il y a d'autres problèmes, voilà. Mais pas l'amiante.
Pardon,
c'est ma spécialité.
Allez-y, terminez.
Je fais des raisonnements pour voir. Donc aujourd'hui, parler que la Guinée équatoriale, les infrastructures sont bien, ils ont construit les routes et les ponts. Ça peut servir à la transformation économique du pays. Mais s'il n'y a pas une logique économique derrière, les infrastructures servent à quoi? Ça ne sert à rien parce que, d'abord, les infrastructures ne pourront pas être maintenues parce qu'il n'y a pas la rentabilité derrière les routes et les ponts et les bâtiments. Ils vont se périmer et la Guinée équatoriale sera pire que ce qui était. Et ça a commencé à avoir l'effet maintenant. D'accord ?
José Ménébert.
Ce que dit Raimondo n'est pas sans intérêt. Hein. Tout à l'heure, on parlait... notre ami universitaire parlait de la trajectoire des pays.
Oumar Ba,
oui. Moi, je dis souvent que la paix durable précède la prospérité. On a des exemples en Afrique. Bangui, on l'appelait la coquette.
Il y a très longtemps. Oui.
Il y a très longtemps. Oui. Il y en a même qui disent que c'est la roquette.
Oui.
Abidjan, on l'appelait Petit Paris.
Oui.
Kinshasa, King... La Belle,
oui.
Bon, les infrastructures.
Abidjan tient la route encore, si je puis dire.
Oui, il y a eu... Voilà, bon. C'est pour dire que les infrastructures, en elles seules, ne suffisent pas à propulser un pays de manière durable vers la paix sociale.
Non, répondez à la question. Oui. Il y avait une question quand même sous-jacente dans ce que disait Dr. Oumaba, Raimondo Elansang. Il disait qu'il n'y a pas de logique économique derrière tout cela. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Il y a un plan stratégique de développement qu'a fait la Guinée équatoriale, comme le font beaucoup de pays africains qui se disent... Oui, mais j'ai participé à l'élaboration et moi, je m'occupais de la partie infrastructure.
Ah, d'accord. Mais il y a longtemps.
Non, on l'a fait en 2007, le deuxième plan, parce qu'on évaluait celui de 1997. Donc, il y avait quand même une évaluation... de ce qui a été fait.
Oui.
Mais il faut dire, moi je dis, en termes simples, quand je parle aux gens, je dis, on évalue un pays avec quatre piliers, que j'appelle ELSA, éducation, logement, santé et alimentation.
Absolument.
Mais si vous ne faites que les infrastructures, comme il dit, ou que des logements, il y aura quelque chose qui manquera, c'est l'alimentation. Bon, vous voyez que la Guinée équatoriale, même au niveau alimentation, dépend de ses voisins, le Cameroun et autres. L'école, il en a parlé. Bon, ceci dit, il y a quand même l'université à côté de Mongomeyen là, qui a été faite, qui est moderne. Mais l'éducation, ça commence à la base. Il fallait lancer un programme massif d'éducation. Mais encore une fois, si vous avez une masse trop instruite, elle devient un peuple.
D'accord.
Donc autant la garder en masse plutôt que peuple. Mais on peut aller plus loin. Est-ce qu'il y a un quotidien aujourd'hui d'information en Guinée équatoriale? Bon,
répondez, c'est une bonne question que vous posez.
Il y a un plan stratégique.
Non, mais est-ce qu'il y a un quotidien d'information? C'est ça.
C'est aux opposants de prendre le plan stratégique et dire il y a un plan stratégique qui, sur le plan théorique, est cohérent, mais sur le plan de l'exécution, nous, on n'est pas d'accord.
Ce ne sont pas les opposants qui sont au pouvoir.
Sur cet axe.
Ils ne sont pas au pouvoir, les opposants.
Mais le problème... ils ne sont pas au pouvoir, sais. Mais moi, je crains beaucoup. Raimondo, je le connais depuis à Paris.
Oui.
Mais le nombre d'opposants africains qui retournent leur veste, on en connaît.
Non, mais c'est pas...
Donc, ils ne mettent pas souvent le doigt dans ce qu'il faut. Donc,
ce que vous dites est très juste, mais on ne va pas finir l'émission sur le procès de l'opposition.
Oui, non, mais je ne fais pas le procès.
En fait, la question qui se pose à la fin de cette émission, c'est quelle est l'avenir au fond de ce régime qui est quand même quadragénaire, hein, voilà, avec cette architecture familiale et clanique que je soulignais tout à l'heure, même si Dr. Oumar Ba m'a dit que ce n'était pas une singularité, une spécificité équato-guinéenne, mais il semble quand même qu'en Guinée équatoriale, cela prenne parfois l'allure d'une caricature. Quoi. En préparant cette émission, on m'a rappelé quand même, bon, je n'avais pas besoin qu'on me le rappelle, puisqu'on en parle souvent, que voilà, l'Afrique centrale héberge aujourd'hui le plus grand nombre de régimes autocratiques quand même sur le continent. Est-ce que la Guinée équatoriale, de ce point de vue, n'est pas devenue la caricature de cette réalité?
Je n'en sais absolument rien, mais vous me permettrez de rebondir sur l'analyse économique qui a été faite tout à l'heure. Je ne fais pas le procès de la Banque mondiale, mais j'ai mis des réserves sur des courbes qui sont ça et là agitées, sans référentiel, sans source, sans échantillon et sans date. À partir de ce moment-là, scientifiquement parlant, ce n'est pas opérant. Ça, c'est la première réserve.
Alors, quel est l'avenir? Quel est l'avenir de régime cadre général comme
celui-là? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, monsieur. Oui. La deuxième réserve fondamentale, c'est par rapport au fait qu'il n'y a pas de logique économique. Ce n'est pas, de mon point de vue, pertinent. Il y a une logique économique, il y a une, comment dirais-je, un plan stratégique qui est là. Il a ses limites, certes, comme à l'image du plan Sénégal émergent au Sénégal, ou bien les plans, comment dirais-je,
comparaison n'est pas raison.
Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Mais on ne peut pas dire comparaison n'est pas raison, mais ça existe. C'est un fait qu'on ne peut pas nier scientifiquement parlant. Maintenant, qu'il soit limité ou non, c'est là où j'attendais l'opposition, qu'elle ait un programme économique alternatif crédible pour pouvoir dire sur tel aspect, tel aspect, tel aspect, vous mettez tant de milliards, vous mettez tant de millions de
cela dit, ce n'était pas l'objet de l'émission.
Non, laissez-moi terminer. Mais n'empêche, mais puisqu'on en est là, on en est là, ils auraient pu, eux,
je vais dire
sur quelques, tous les
je vais
points,
dire quand même quelques mots. À la fin pour...
Rapidement, parce qu'il nous reste 4 minutes, alors on va laisser terminer, docteur Oumaba.
Sur tous les points stratégiques, vous devez à tout moment, quand vous titillez un peu, que vous nous dites, oui, sur tel aspect, voici les limites et voici ce que nous nous proposons et c'est chiffré à temps. À partir de ce moment-là, on vous dit chapeau et maintenant c'est au peuple équato-guinéen d'arbitrer.
Cela dit, s'il y avait un bilan aujourd'hui, c'est au pouvoir qu'on demanderait le bilan et non pas à l'opposition, c'est une évidence.
Oui, mais pour répondre à votre question fondamentale, c'est que de mon point de vue, la Guinée équatoriale est un pays qui se cherche aujourd'hui parce que d'abord, on n'a pas une transition qui peut être possible sur le plan de l'alternance démocratique, mais on peut espérer une transition souple du système lui-même, c'est-à-dire de la méthode.
De l'intérieur du système.
À l'intérieur du système. Ça, on peut l'espérer. Si on ne l'a pas, on peut aller aussi vers un schéma pire. Et à ce niveau-là, ce n'est plus, de mon point de vue, en phase avec les standards internationaux. Et donc, on peut aller vers des logiques internes, de pression, qui peuvent être combinées à des logiques internes. Et là, le régime peut avoir des comptes à rendre, de mon point de vue.
Merci, Dr. Oumaba. Pour terminer, Raimundo et Lanzang.
D'accord, aujourd'hui, en Guinée équatoriale, nous avons démontré que les infrastructures, comme on a dit, les infrastructures à elles seules ne sont pas suffisantes pour montrer que le pays peut arriver au plan d'émergence économique. Vous avez dit que la Guinée équatoriale est en décroissance aujourd'hui. Quand vous montrez le pic...
Ne montrez pas le graphique encore, parce que c'est la fin de l'émission.
Le pic de croissance d'un pays, d'accord. Un pays qui n'arrive pas à gérer sa croissance économique, c'est un pays qui n'a pas de plan économique. On commence par là. On n'arrive pas à gérer la croissance. Aujourd'hui, on croit à 20% par rapport aux hydrocarbures. L'année prochaine, on croit à moins 8%. Aujourd'hui, la Guinée équatoriale est dans un état catastrophique. Le bilan du régime Obiang est négatif dans tous les points. Il n'y a pas de plan économique qui a pu être mis en place. Et quand je vous parle de plan économique, j'en sais quelque chose aussi. J'ai étudié ici en France.
On a bien compris, pour vous, il n'y a pas de plan économique, il n'y a pas de stratégie, en fait.
Je ne suis pas d'accord avec vous.
Alors, docteur, vous ne vous mettrez pas d'accord à la fin de l'émission. Il reste 30 secondes, je voulais une conclusion un peu générale de la part de José Ménébert.
La Guinée équatoriale.
Ne nous parlez pas de la Suisse.
Non, pas du tout. La Suisse a des principes qui fonctionnent. Ce sont ces principes qui m'intéressent, mais pas la Suisse en elle-même. La Guinée équatoriale, je pense qu'effectivement, elle aurait pu, et peut-être qu'elle peut, un jour devenir une petite Suisse, mais qu'elle fasse attention avec son système de gouvernance. Parce que tous les systèmes trop rigides finissent tôt ou tard par casser. Et donc, il faut aller vers ce qu'on appelle aujourd'hui dans les projets l'agilité, la souplesse. Tout système doit évoluer. Sinon, à un moment donné, il porte en lui-même les germes de son autodestruction.
Merci.
J'en ai fini.
Merci beaucoup.
Le smart power.
Voilà, c'est la fin de l'émission. Je ne sais pas, vous avez un mot à ajouter?
Oui, j'ai un mot à ajouter. En tant qu'opposition politique, nous avons quand même un plan avec lequel on espère que le régime peut... réussir à faire que le régime se plie.
On fera une émission, je vous promets, sur les projets politiques ou de société de l'opposition équato-guinéenne. On invitera d'ailleurs à l'occasion le docteur Oumaba, puisque c'est lui qui vous a fortement interrogé sur ce point. Merci beaucoup Raimundo et Lanzang d'être venu. Merci José Ménébert.
Merci.
Merci
docteur Oumaba, merci d'être venu.
Merci
à vous. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. Merci à Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Hélène Bizio qui a réalisé cette émission. Dans quelques instants, vous aurez rendez-vous avec la rediffusion du journal des auditeurs sur la radio africaine. Vous pouvez réécouter cette émission Le Grand Débat dès ce soir sur notre site africa1.com. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Et n'oubliez pas, plus que jamais, prenez grand soin de la beauté des choses. Essayez en tout cas.
Africa numéro 1, Le Grand Débat, Francis Lalupo.